Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Par les temps qui courent, rencontre les artistes tous les soirs pendant une heure et ce soir avec la romancière Michèle Lèbre.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Romain Debecq de Lièvre avec Michèle Lèbre.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan, à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi, et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. C'est ainsi que commence la Chartreuse de Parme, composée par Stendhal. Dans votre dernier roman, Michèle Lèbre, deux souvenirs invitent Laure, votre narratrice, à un voyage en Italie. Un exemplaire de la Chartreuse de Parme retrouvé dans un carton légué par un ami et la lecture de ce roman à voix haute sur une plage de Normandie à l'adolescence. Laure honorera cette double invitation en se rendant à Parme, parmi les ombres des souvenirs. Bonsoir Michèle Lèbre.
Bonsoir.
Rendez-vous à Parme, c'est le titre de votre dernier roman. Il est publié aux éditions Sabine Vespizère. Bienvenue, merci d'être là.
Merci.
Il y a un moment donné dans ce roman où Laure, votre narratrice, se rend compte que son existence est jalonnée par les commencements, ce qu'elle appelle les commencements. Est-ce que c'est important pour vous, d'une manière générale, les commencements?
J'aime beaucoup le livre de Pantalis, L'amour des commencements. Oui, bien sûr que c'est important. C'est un éternel recommencement. Je pense que j'ai écrit beaucoup sur ça, sur les choses qui recommencent toujours, même si dans mes romans il est beaucoup question du passé, mais un passé sans cesse renouvelé, voilà. Et donc c'est une façon peut-être de résister aussi, parce que je crois que dans l'écriture il y a quelque chose de l'ordre de la résistance à l'oubli, évidemment, à la fatigue, au désespoir, dans des périodes un petit peu complexes, comme celle d'aujourd'hui, par exemple. Je crois que c'est vraiment le livre que j'ai écrit dans le monde d'aujourd'hui, là, le dernier roman, dans une atmosphère pas très enthousiasmante, on va dire, voilà. Aller chercher des moments du passé qui finalement sont, contrairement à ce qu'on pense, ça me fait penser à une phrase de Barthes que j'aime beaucoup. Il dit quand je regarde mon passé, c'est l'enfance que j'aime le plus, parce que elle ne parle pas de l'irréversible, elle me parle de l'irréductible. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un livre qui m'a fait du bien. Aller relire ce roman, ça aurait pu être des tas d'autres. Et puis.
La Chartreuse de Parme.
Et à partir de là, retrouver l'énergie, c'est-à-dire l'énergie qu'alors, c'est-à-dire d'aller effectivement honorer ce rendez-vous qu'elle avait oublié et rester un peu en Italie, puisque c'est son pays d'élection.
Est-ce que c'est important le début d'un roman, et notamment le commencement littéral, c'est-à-dire la première phrase?
Tant que je n'ai pas peut-être pas la première phrase, mais presque, je ne peux pas commencer. De toute façon, un roman, pour moi, je commence pas un roman en me disant j'ai une idée, je commence à écrire. Ça peut durer comme ça plusieurs mois. Je vais rôder autour cette idée, savoir pourquoi, qu'est-ce qu'elle cherche en moi, qu'est-ce que je veux dire. Ça peut durer très très longtemps, et en plus moi je ne fais jamais de plan, ça m'intéresse pas du tout de faire des plans dans mes romans. J'aime garder ce côté un petit peu dangereux, un peu aventureux, c'est-à-dire je sais où je vais aller, à peu près. Mais je ne sais pas comment je vais y aller, qu'est-ce qui va se passer entre-temps. Quand je commence à écrire, d'abord j'ai le titre. Si je n'ai pas le titre, je ne peux pas commencer à écrire. parce que je dis souvent que le titre, pour moi, c'est le là en musique, c'est-à-dire quelque chose qui va perdurer jusqu'au bout du roman. Alors j'ai le titre, donc je peux commencer à écrire, et voilà, c'est parti pour une grande aventure, jusqu'à l'endroit où je dois aller, sans savoir quelles seront les étapes, voilà, de cette trajectoire.
C'est une manière de donner une direction aussi, puisque ce titre-là, Rendez-vous à Parme.
C'est le fil à plomb, enfin c'est...
Ça oriente.
Ça oriente, bien sûr, mais ça n'en dit pas davantage, c'est-à-dire qu'après... Après, il y a plus de garde-fous. Je sais pas. Mais je pense que j'écris un peu comme je voyage. J'aime pas utiliser les plans. J'aime beaucoup me perdre dans des villes. Et il me semble que je les rencontre et que je les découvre beaucoup mieux qu'en suivant scrupuleusement un plan.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette première phrase de la Chartreuse de Parme que je lisais en introduction?
Celle que vous venez de lire. Vous pouvez me la redire parce que du coup je l'ai oubliée.
Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur.
Ça me fait penser à l'origine de ce roman pour Stendhal, qui est un... Je pense qu'il l'a écrit comme si c'était un éternel jeune homme. J'avais l'impression que moi, ce Stendhal n'a pas vraiment vieilli. Quelque chose de voilà. Alors lui, il sort de son expérience napoléonienne, qui a pas été extraordinaire, et il décide longtemps après, quand même, d'écrire ce roman. Mais c'est aussi, c'est peut-être aussi un retour sur ses souvenirs d'enfance et sa façon de s'inscrire et de lire l'histoire. Parce que, en fait, ce roman, La Chartreuse, c'est quand même un roman assez politique, l'air de rien. Je crois que je suis presque sûre qu'il n'y aurait rien des événements de Modène qui ont eu lieu un petit peu après la date de la fin de son histoire, même un peu avant, et qui concernait l'occupation autrichienne dont les Italiens n'en pouvaient plus. Et voilà, ce couvert de cette grande aventure, ce vagabondage à la fois amoureux et voyageur, en fait, il y a ça aussi. Même s'il n'y fait jamais allusion, je pense que c'est quelqu'un de toute façon, c'était, comme on dirait aujourd'hui, c'était quelqu'un de gauche, Stendhal. Hein. Son père était royaliste, lui, et d'abord il déteste son père, et deuxièmement, il était absolument anti-royaliste. Donc... il a écrit ce roman. Alors, évidemment, il était déçu par ses expériences napoléoniennes, mais ça n'a pas empêché d'avoir ce regard encore sur politique.
Je suis restée avec le livre dans les mains, fouillant ma mémoire, puis j'ai lu les premières pages avec une étrange appréhension. Happée par le récit qui m'entraînait soudain dans un temps lointain, j'ai vu se dessiner la plage du dernier été chez ma grand-mère. J'entendais le souffle régulier des vagues et la voix de l'homme qui lisait pour moi, un homme qui avait presque l'âge de mon père. Il s'était approché un jour, me demandant de le laisser lire parce qu'il l'avait toujours fait pour sa fille, disparue dans un accident. Elle lui manquait, ces instants-là aussi lui manquaient. Je n'avais su comment refuser. Je l'avais à peine regardé, les chagrins d'adulte m'effrayaient, j'étais si jeune. Je lui avais tendu le livre avec un sentiment diffus de culpabilité. Il m'avait dit merci et avait commencé à lire. Chaque après-midi, j'entendais sa voix grave donner au texte une ampleur, une solennité que les vagues emportaient au loin. Je n'osais pas m'étendre sur le sable et fermer les yeux, mais j'en avais eu souvent le désir. Il y avait dans ces moments une étrange complicité. Peut-être même aurais-je aimé m'abandonner dans ses bras, comme la petite fille que j'étais et qui n'avait jamais éprouvé une telle douceur. Je n'avais rien dit à ma grand-mère ni à mes parents. Ce fut le premier secret de ma vie. La veille de mon départ, Il m'avait apporté un livre qui avait appartenu à sa fille, en ajoutant que c'était une façon de la croire encore vivante. C'était le Grand Maulne. Je n'avais pas osé dire que je l'avais déjà lu. Je sentais confusément qu'il ne fallait pas. Il m'avait prise par les épaules, les yeux pleins de larmes, et m'avait murmuré « Soyez heureuse et quand vous serez plus grande, vous irez à Parme. Il faut lire ce roman de Stendhal à Parme. »
Michel Lèbre, on vient d'entendre une lecture par Luca Vauvillier du tout début de votre roman « Rendez-vous à Parme ». Où il y a ce souvenir que j'évoquais en introduction, qui est ce souvenir d'une lecture à voix haute, adolescente, fait par une personne qui pourrait être le grand-père de Laure, la narratrice. Est-ce que pour vous, c'était aussi une manière de raconter qu'on peut parler de la Chartreuse de Parme en général, mais qu'avant tout, il y a un contexte, c'est-à-dire il y a un moment où il y a eu une première lecture, enfin que le livre est toujours dans un contexte?
Je pense qu'il y a des lectures qui laissent des traces comme ça, en particulier des lectures faites tôt, et surtout des lectures, moi je sais que les lectures qui m'ont marqué, c'est des lectures chez mes grands-parents maternels, qui n'étaient pas forcément des lectures pour l'âge que j'avais. J'ai de ces lectures un souvenir très très vif. Alors c'est vrai que quand j'avais, je sais pas, 10 ou 12 ans, moi je me souviens de Jules Romain, de Romain Rolland, d'Anatole France, je me souviens du titre « Les dieux ont soif », ça m'avait tellement intrigué que j'avais lu ça, et puis Roger Martin Dugard, les Thibault, enfin c'était... en même temps, c'était dans le temps, c'était pas très éloigné du temps moi où je vivais. Moi je suis née en 39, hein, et j'avais 6 ans à la fin de la dernière guerre. Donc tous ces allusions de ces auteurs, c'était quelque chose qui m'était proche et dont j'avais entendu parler par les adultes, voilà. Et je pense que ce sont des moments dont on se souvient toute sa vie et qui probablement enclenche cette espèce d'appétit de lecture que j'ai gardé après, bien sûr. D'abord parce que ça, c'est le moment où on a une sorte d'autonomie, parce que ces livres ne m'étaient pas prescrits par mes grands-parents, et même ma grand-mère m'avait interdit de lire Colette parce que j'étais trop petite, et bien précisément parce qu'elle me l'avait interdit, je l'avais lu. Et je me souviens de Claudine à l'école, ça m'avait ouvert des horizons. Enfin, bon, ces choses-là ne restent... Oui, c'est ça. Elles sont irréductibles, comme dirait Barthes, c'est-à-dire qu'on s'en souvient tout le temps, y compris encore aujourd'hui, voilà.
Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du secret? Il y a le mot secret qui apparaît, c'est-à-dire qu'il y a un secret qui est partagé entre Laure et ce vieil.
Je pense que c'est le début d'une automisation. On s'autonomise par rapport au monde adulte qui est très présent, très prégnant même. Et tout d'un coup, cette scène que j'ai imaginée, pour moi, je pense que j'aurais aimé la vivre peut-être. C'est-à-dire... c'était un petit peu, d'ailleurs, quand je lisais Colette, j'ai construisais le premier secret de ma vie. J'ai jamais avoué avoir lu Colette à l'époque où on me l'interdisait. Et je trouve que c'est très important, oui, faut grandir. Pour grandir, il faut avoir des secrets et faire des choses un peu défendues, me semble-t-il.
Ce qu'il y a de particulier, là, c'est que c'est un secret partagé entre au moins deux personnes.
Voilà, et c'est surtout avec un adulte qu'elle ne connaît pas. C'est très... Je sais pas pourquoi j'ai imaginé cette scène. Alors, parce que moi, dans ma carrière d'enseignante, j'ai beaucoup lu à des jeunes gens, mais à mes enfants aussi, à des jeunes gens, à des enfants, que dis-je. Et j'en ai eu des retours qui probablement m'ont inspiré cette scène. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément une grande intimité entre la maîtresse qui lit un enfant en particulier, mais j'ai eu des retours plus tard, quand j'ai écrit un de mes romans, Le Canapé Rouge, je me souviens d'un ancien élève qui a écrit à l'édition, et un ancien élève du début de ma carrière, ça remontait à très loin, et qui avait été content de lire ce livre et qui avait écrit. Et j'en avais pleuré, je crois. Et en plus, cette femme m'a appris à lire dans un petit village d'Auvergne. Et comme je lui ai répondu, tu as justifié toute ma carrière. C'est pour ça, je crois que c'est aussi ce rapport-là. Ce rapport adulte-enfant, comment donner le goût de la lecture, c'est quelque chose qui m'a beaucoup habité, moi, dans mon métier. Parce que apprendre à lire, c'est facile. Mais apprendre à aimer lire, c'est une autre chose. Et donner le goût de la lecture, c'est tout autre chose que d'apprendre à lire, qui est finalement une technique relativement simple. Donc je pense que c'est ça aussi qui m'a peut-être inspiré cette scène.
Ce qu'on entend aussi dans ce passage, c'est cette invitation. Il faut lire La Chartreuse de Parme, à Parme, qui est aussi une certaine manière d'incarner très très concrètement la littérature, c'est-à-dire d'un roman qui se passe à Parme, alors que Stendhal, on va écouter une archive tout à l'heure, ne l'a pas composé du tout en Italie, il l'a composé à Paris.
Bien sûr.
C'était une manière d'aller chercher quelque chose d'une vérité du texte dans le réel.
Oui, probablement. C'est ce que j'ai fait moi-même. Hein. Je n'étais pas allée à Parme, je ne connaissais pas cette ville. Et j'espérais y trouver quelque chose aussi. Oui, c'est ça, une espèce d'élément que je n'ai pas trouvé. D'ailleurs, je dois dire, mais il est vrai que j'avais lu un livre précédemment d'un Italien de Modène, qui est proche de Parme, qui avait écrit ça au début des années 60, et dont le nom m'échappe tout d'un coup, et qui lui disait, mais aucun lieu de la Chartreuse de Parme n'est à Parme, tous les lieux sont à Modène. Bon, j'ai failli aller vérifier, mais bon, finalement, je me suis dit que peu importe, il a le droit de déplacer les lieux, voire même d'en inventer, comme je l'écris dans le roman. Mais j'avais trouvé ça, j'avais beaucoup aimé ce livre, et c'est sans doute aussi ce qui m'avait donné en plus l'idée d'aller voir à Parme un petit peu. Je peux pas dire que j'ai trouvé une correspondance total entre Parme et la Chartreuse, hein, je peux pas dire, non, j'ai pas été émue par cette ville, à mon grand regret.
Hein. C'est présent, oui, dans le livre.
Oui, dès que, mon grand regret, parce que j'aime bien quand il y a comme ça des textes qui sont tellement liés à des lieux, hein, je parle même pas de Modiano et Paris, par exemple, hein, mais il y a plein d'autres auteurs comme ça qui ont écrit des livres qui sont ancré dans des lieux, et quand on y passe, ben quand je vais à Ferrare par exemple, qui était la ville de Giorgio Bassani, et que je relis des textes de Giorgio Bassani que j'aime énormément à Ferrare, je suis totalement dans ses romans. Tout y est, même les lieux qui ont disparu, il y en a pas d'ailleurs qui disparaissent, parce que Ferrare est une ville qui a une espèce de continuité absolument merveilleuse. Lire Bassani à Ferrare, c'est voilà, il y a bon. Lire La Chartreuse à Parme, franchement, j'ai pas trouvé le même plaisir, oui, non.
Et ça fait du voyage une forme de retour. Si on a lu La Chartreuse de Parme et qu'on va à Parme sans y avoir été avant, c'est comme si on y retournait, d'une certaine manière.
Oui, c'est ça, c'est comme si, absolument, absolument. C'est exactement comme si on y retournait. Et puis, il y a le théâtre Farnèse, quand même. Alors, le théâtre Farnèse que ne pouvait pas ignorer Stendhal, évidemment. Pas le souvenir qu'il en parle, d'ailleurs. Je pense qu'il ne me parle pas du tout de ce théâtre. Mais ou peut-être y fait-il allusion quand à propos d'une chanteuse qui vient. Mais ce théâtre m'a complètement ébloui. Un théâtre baroque détruit pendant la guerre, la dernière guerre, reconstruit exactement en état dans les années 50, et qui est d'une beauté et qui pour moi, finalement, a donné un tournant à mon roman. Je savais pas vraiment au début que j'allais parler de théâtre. C'est vrai. Je crois que ce roman, je l'ai écrit en même temps que je voyageais, quoi. Je savais pas que j'allais parler du théâtre. Mais là, dans ce lieu, qui en plus était un peu blessé, parce qu'il était un peu en travaux dans les coulisses, donc, mais la salle était complètement intacte. J'ai eu cette ce que je prête alors, cette espèce d'arrivée de fantômes comme ça, de souvenirs de théâtre, d'une force incroyable qui m'ont obligée à les mettre dans le roman.
Bonjour, c'est Benissi qui habitait Stendhal.
Je ne sais pas.
Parce qu'il a écrit la Chartreuse de Parme ici, il y a...
Je ne pense, je ne sais pas.
Je peux entrer?
Oui, entrez.
Merci. Tiens, c'est drôle, j'imaginais pas ça du tout comme ça. Je voyais ça plus petit, plus mansardé. C'est pas croyable écrire la Chartreuse de Parme ici en 52 jours. Quand on pense au ciel d'Italie, au lac de Côme, aux collines, ici il y a trois murs, deux fenêtres qui ne donnent sur rien, sauf sur la rue Comartin qui n'est pas spécialement brillante. Ça doit être ça au fond, le bonheur d'écrire.
8 rue Comartin. C'est donc ici que Stendhal a écrit en 52 jours à Chartreuse de Parme. C'est assez extravagant quand on arrive à imaginer Stendhal ici, livré à son imagination, à sa passion d'écrire et en tête à tête avec un malheureux scribe qui dictait à toute vitesse et qui naturellement, je suppose, ignorait la sténodactylo et devait en plus ne rien comprendre de ce que Stendhal lui dictait. Et aussi une chose assez étonnante, c'est chez Stendhal, je trouve, en dehors de ce charme extraordinaire qu'a pour moi ce ton de galop qu'il a tout le temps, c'est qu'il était lui-même assez épais, courtaud, rouge, et que tous ces jeunes gens qu'il a imaginés sont tous fringants, minces, bons cavaliers, bons danseurs, pleins de charme, et en général, à mon avis, un peu niais.
Michel Leb, on entend une archive de Françoise Sagan qui parle de Stendhal et qui visite son appartement, c'est en 1960. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette archive ?
Ça me fait rire, mais beaucoup, évidemment. Puis j'aime beaucoup Sagan. Sagan, pour moi, elle a été, quand elle a écrit son premier roman, Bonjour Tristesse, je devais avoir peut-être un ou deux ans de moins, ou trois ans de moins qu'elle. Donc, elle était toute jeune, hein, bon. Et puis j'aime bien cette espèce d'élocution rapide. Elle parle comme elle conduisait, hein. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'elle parle de cet endroit complètement réduit, alors qu'il parle d'espace, de voyage, etc. Mais justement, moi, je pense que c'est pour lui et la meilleure façon de s'en souvenir de ces paysages, ne pas être distrait par un paysage extérieur, un mouvement extérieur, cette espèce de retrait, pour mieux laisser se révéler ses souvenirs d'Italie, de paysages, voilà. Donc voilà, c'est ce que ça... Quant à, oui, c'est vrai que Stendhal n'était pas d'une grande beauté, apparaît-il, hein, mais peut-être que je crois qu'il s'est beaucoup mis dans son Fabrice, hein, cette espèce de galopin permanent, lui-même d'ailleurs galopin aussi, hein, d'une certaine manière, et il a pas cessé de voyager, il avait bougé tout le temps, c'était un drôle d'homme, mais c'est un joli extrait de Françoise Sagan. C'est sûr que peut-être qu'elle n'écrivait pas du tout dans un endroit réduit.
Ce qu'on rencontre aussi dans votre roman Rendez-vous à Parme, c'est l'idée que connaître la vie d'un auteur, ça peut aussi nous aider à connaître son œuvre. Est-ce que c'est pas un obstacle, en tout cas?
C'est pas, en tout cas, c'est pas prioritaire pour moi. J'ai pas forcément envie de connaître la vie d'un auteur, que ce soit les auteurs d'aujourd'hui ou d'autres que j'aime. Ça peut donner des éléments, mais pas forcément les bons éléments. Hein, c'est... Je me souviens que les tout premiers écrits que j'ai publiés, que je faisais lire parfois avant à des amis, avant de les soumettre à un éditeur, je ne supportais pas cette façon qu'avaient ces amis d'essayer de trouver des éléments de ma vie
de
dans
début
le roman.
Vécu.
Voilà. Ah oui, c'est... Ah oui, non, non. Parce que précisément, Je leur expliquais que moi, écrire de la fiction, c'est la meilleure manière d'être au plus près de moi, parce que je n'ai pas du tout envie d'écrire ma propre vie. Donc, peut-être parce que j'ai envie, comme je l'écris quelque part, d'avoir plusieurs vies dans ma vie, hein, et les plusieurs vies que j'ai dans ma vie, ce sont celles de mes personnages, qui n'ont absolument strictement rien à voir avec ma propre vie. Non, mais je cherche jamais, moi, à chercher la vie des auteurs que j'aime. Ça ne m'intéresse pas du tout.
Ce qui est plus retracé dans votre roman, c'est plutôt comment une vie peut être tissée par des lectures, par des visionnages de films, de spectacles.
Bien sûr. En tout cas, la mienne, ça, c'est certain. Elle est tissée par ça et elle est des fois raccommodée. Hein. Souvent, je dis, j'ai une pharmacie littéraire, c'est-à-dire que en cas d'urgence, je sais quel livre je vais aller chercher dans ma bibliothèque pour le relire. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un mouvement permanent, ça, un retour permanent. Moi, je suis une grande adepte de la relecture. Je relis. Peut-être autant que je lis de romans nouveaux, peut-être autant, surtout depuis quelques années, oui.
Il y a l'idée qui est vraiment omniprésente dans Rendez-vous à Parme, c'est l'idée que les œuvres opèrent. C'est-à-dire qu'il y a une succession de références qui sont citées, qui s'enchaînent souvent les unes les autres, comme des chaînes de lecture, de sensibilité. Mais c'est l'idée que les livres font quelque chose, ils opèrent. C'est pas des références d'une bibliothèque universitaire, par exemple.
Ah non, pas du tout. C'est ils opèrent, mais sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui infuse, je dirais, hein, très lentement, et qui sont tout le temps en moi. Moi, quand j'écris, c'est vrai que j'ai souvent quelques anges gardiens dans mon dos, moi, d'auteurs qui me sont chers, qui n'ont pas forcément à voir avec ce que je suis en train d'écrire. Le propos étant de ne pas écrire comme les auteurs qu'on aime, hein, mais de trouver sa propre langue. C'est ça le but du jeu, quand même. Mais ils sont tout le temps présents, oui, bien sûr. Je crois que c'est quelque chose de... C'est très émotif, moi. C'est pas du tout... C'est pas une référence, c'est pas sans des...
Ils arrivent comme ça, oui.
Oui, c'est ça.
Par hasard,
voilà, ils surgissent. Hein, ils viennent, et quand ils viennent, ben, je les accepte, parce qu'ils font partie... Ils cheminent à mes côtés, voilà. Donc, je veux bien cheminer avec eux.
C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo. E inesistente hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. E abbiamo ripreso a masticare questa vecchia roba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza. Mezza dolce, mezza amara e siamo rimasti in gara. Dancing, da-da-da-di-da, dancing. Dancing, da-di-da-da-da, dancing. I ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione. E sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo e sanno che tutte le figure hanno mille sfumature. Se nel mio passo hai avvertito un'inquietudine e un grande inchino ero vicino a una città lontana, tutta di madreperla. argento, vento, ferro, fuoco e non trovavo qui nessuno per parlarne un poco. Merci.
France Culture, Merci. Par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre, Dancing. Avec Michel Lèbre.
Dancing.
Il faut que tu cherches le sentiment. L'intelligence dramatique ne suffit pas s'il n'y a pas de sentiment. Ce qui fait de Rému le plus grand acteur de notre époque, c'est qu'il est puissant dans le sentiment. Il faut arriver à puiser en soi ce potentiel, cette puissance, cette faculté du sentiment portée à l'excès. C'est par un excès de sentiment, un excès de tendresse, un excès de colère, d'indignation, d'orgueil, c'est en cultivant toutes ces qualités, tous ces défauts, toutes ces vertus cardinales que tu arriveras à rendre tes personnages. Antirène donne Elvire 100 mètres de sentiment. En première année, il faut qu'elle essaie de voir ce que c'est qu'une scène. Qu'on la lui explique, qu'elle y pense, mais pour toi, la pensée doit s'accompagner d'un sentiment violent, d'un sentiment profond. Faut pas que tu puisses te dire, moi, je vais jouer ça en annonciation, tu le donnes confortablement. Il faut que tu développes ton sentiment. Elle n'est pas convaincue. Je pense que je ne te dis pas ça pour avoir le plaisir de t'expliquer des balançoires. Dans 20 ans d'ici, tu penseras peut-être à ce que je te dis maintenant. Quand tu raconteras des histoires de jeunesse à des camarades plus jeunes, en voyage, par exemple. Je me suis embêté dans sa classe pendant 3 ans. Je ne l'aimais pas. Mais un jour, il m'a dit quelque chose de pas mal. Je ne souhaite pas autre chose que durant ces 3 années, vous faire un jour un instant toucher du doigt votre instrument. Vous aurez appris quelque chose le jour où, dans une conversation comme celle que nous avons en ce moment, par exemple, vous aurez été tout à coup touché, saisi par une idée, par une sensation que je mettrai devant vous, où vous aurez eu cette révélation intérieure de ce que vous êtes par rapport à ce que vous faites. Si ton sentiment te monte à la gorge pendant quelques secondes et que tu en éprouves le goût, si pendant une scène où je t'explique quelque chose, tu t'es vu, tu as gagné 3 ans de travail, c'est ce que j'essayais d'expliquer l'autre jour à Lyon. J'essaie de vous le dire toujours de manière compréhensible pour que cela vous touche. Soit par réaction vive, soit par une espèce d'amitié que je sais peut-être mal exprimer.
Michel Lèbre, on écoute la voix du comédien Philippe Clévenot dans Elvire Jouvet 40, où il joue Louis Jouvet, dans une mise en scène de Brigitte Jacques. Là, c'est au TNS en 1986, filmé par Benoît Jacquot. Philippe Clévenot, il est cité dans ce roman Rendez-vous à Parme, où le théâtre est très présent, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est un spectacle que vous avez vu.
Bah, c'est un spectacle que j'ai vu au théâtre de l'Athénée quand il a été créé. Je ne l'ai pas revu... Je l'ai vu qu'une seule fois. Je suis pas retournée le voir et je regrette, je dois dire. Mais peut-être que c'est mieux de l'avoir vu une seule fois. Quelque chose de magique qui ne se reproduit pas. Parce qu'on sait bien que le théâtre, ça bouge tous les soirs. C'est jamais exactement la même chose. C'est ce qui fait la beauté d'ailleurs, hein. Cette espèce de choses qui bougent, d'approximative, tout en état, en apparence exacte, mais non. Il suffit de parler avec des comédiens pour qu'ils vous le confirment. Et quand même, en tant que spectatrice, pour avoir vu parfois, grâce à des amis comédiens, plusieurs fois le même spectacle, c'est jamais tout à fait le même. Et ce spectacle-là, dans la foule des spectacles que j'ai vus, et ça sera un souvenir absolument éternel, comme celui que je cite aussi de Samy Frey à l'Opéra Comique, quand il avait fait cette adaptation de Je me souviens, de Pérec. Non, mais c'était deux nuits blanches, ça. C'était deux nuits blanches, à ne pas pouvoir dormir tellement ce spectacle m'avait bouleversée. Et Clévenot, je l'ai vu dans d'autres spectacles, mais celui-ci tout particulièrement m'avait... Bon, parce que c'est une belle, beau travail aussi de Brigitte Jacques, tout particulièrement touchée, quoi. C'est vrai que c'est un comédien, c'était un comédien absolument somptueux, quoi.
Le théâtre, ça a été vraiment une surprise qu'il apparaisse autant dans les souvenirs et dans ce roman.
Pour moi, ça a vraiment été une surprise. C'était pas du tout... Comme je vous le disais, je suis partie à Parme, je savais pas ce que j'allais faire avec ça. C'est souvent d'ailleurs que je commence un roman comme ça. Et c'est le théâtre Farnèse qui a tout d'un coup introduit le théâtre dans ce roman. Mais je trouvais que oui, c'était très bien. C'était très bien pour des tas de raisons. C'était pas incongru comme intrusion. Et je pense que depuis quelque temps, j'en avais envie parce que très souvent, moi, je vais un petit peu moins souvent au théâtre. Ben depuis la disparition de Patrice Chéreau en particulier, qui me manque, comme je le dis, et beaucoup, enfin son travail en tout cas. Et souvent, je suis pas tout à fait d'accord avec certaines mises en scène. Il y a des bons metteurs en scène, hein. Moi, je pense à Joël Pomera, je pense à metteur en scène portugais, qui était d'ailleurs ce matin à France Culture, hein,
Emmanuel de Marcimota, voilà,
qui fait un très beau travail. La mise en scène est très tributaire de la personnalité du metteur en scène, hein. Alors, il y a des fois des espèces d'excès, je trouve, l'intrusion de la vidéo, beaucoup, de corps dénudés qui ne sont pas d'une indispensable absolue. Moi, j'ai pu voir des adaptations et de textes que j'ai absolument détesté, hein. Je pense qu'il y a des modes aussi dans le théâtre, hein.
Et qu'en tout cas,
pour moi, le théâtre, c'est un texte d'abord. Et on respecte un texte. On commence par faire une relecture. Parce que un texte magnifique de théâtre, y compris les textes très anciens, ils sont d'une modernité absolue. On les respecte. On les reçoit comme si c'était... Parce que je pense que ils sont là pour... Je pense que le théâtre... Il y a quelque chose que j'aime beaucoup qu'a dit Edouard Bond dans un très beau livre qui s'appelle La trame cachée. Il dit, le théâtre, on va au théâtre pour défendre nos vies. Parce que il pose les questions qui définissent notre humanité. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. On va pas, moi je vais pas au théâtre pour me distraire. Je vais vraiment au théâtre parce que je pense que c'est une véritable nourriture. Ça remet les choses à plat. Ça donne un miroir de ce qu'on est aujourd'hui, de ce qui se passe. Mais il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit au texte. Texte, il doit rester tel qu'il est, et tel qu'il est, il fait son travail.
C'est justement ça, oui, le théâtre, comme ça apparaît dans le roman, comme manière d'activer le texte, quand on parlait d'acte de parole de la littérature.
Absolument, absolument.
C'est une manière de la mettre en pratique, de la travailler.
Tout à fait.
On entend Philippe Clévenot,
voilà.
C'est dans le rôle de Louis Jouvet, c'est l'idée de la répétition, quoi.
Absolument, absolument. Et comme je crois que je le dis aussi dans le livre, c'est ce qu'expliquait Chéreau quand il disait « Ce que j'aime, moi, c'est la répétition sur un plateau vide. On est seul avec un texte, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on l'habite ? Comment on le défend ? Comment on le projette ? Comment on le passe au futur spectateur ? C'est superbe, quoi. Je suis d'accord complètement avec ça.
Est-ce que pour vous, d'une certaine manière, écrire, c'est aussi répéter, refaire ?
Ben bien sûr, mais moi, c'est le 12e roman que je fais, c'est Sabine. J'en ai fait quelques autres ailleurs, mais j'ai l'impression d'avoir écrit qu'un seul livre pour moi. C'est-à-dire, je pense que ce sont 12 chapitres d'un même livre où je reviens quand même sur plein de choses, non pas dans les fictions. Il n'y a pas de personnages récurrents, il n'y a pas de... Mais c'est cette espèce de oui, c'est sans doute essayer de refaire sans cesse le même chemin, ce même chemin entre passé et présent, que je fais moi en vivant d'ailleurs, hein. J'ai toujours fait très souvent l'impression de vivre dans plusieurs temps à la fois, moi. Mais je pense qu'on en est tous là, hein. On est assaillis par des images du passé, par des souvenirs, on n'est jamais dans un vrai présent. Le présent n'existe pas, hein. Jean Kelevich l'a très bien dit. Il savait très bien parler de ces choses-là, dans le je ne sais quoi et le presque rien. Et moi, je pense avoir écrit un seul roman avec plusieurs fictions, voilà, qui sont finalement, qui peuvent très bien s'emboîter les unes dans les autres.
Le personnage de Léo, qui est un des personnages de Rendez-vous à Parme, qui est donc l'autre personne qui formule l'invitation à aller à Parme et qui refait le croisement avec la Chartreuse de Parme, donc c'est lui qui lègue un carton à la narratrice Laure, où elle retrouve un exemplaire de la Chartreuse. Il peut aussi faire penser éventuellement à la figure de Patrice Chéreau. Est-ce que c'était pour vous une manière de créer des doubles ?
Oui, ça, mais je pense que j'ai beaucoup pensé au début de Patrice Chéreau, hein, qui a commencé au lycée, hein, et qui l'a raconté. Hein, et moi, j'ai lu, parce que j'aimais énormément les décors de Peduzzi, qui sont absolument magnifiques dans la sobriété et l'élégance dont je parle aussi. Et dans le beau livre qu'il a écrit, il parle de leur rencontre, qui est magnifique, totalement, complètement fortuite, dans un garage de banlieue, où Chéreau est en train de peindre ses décors, et où Peduzzi entre pour par hasard, parce que sans doute, il voit ce type dans ce garage qui bricole et ils ne se sont jamais quittés. J'ai pensé à lui, mais il y a plein d'autres. Parce que j'entendais Joël de Marcimota ce matin qui racontait que lui aussi, à 16 ans, il montait la peste de Camus. Tous ceux qui ont aimé le théâtre ont commencé très tôt. Le théâtre et alors moi personnellement j'en ai fait un peu théâtre amateur mais plus tard nettement plus tard quand même hein, ça n'a pas duré très longtemps donc j'ai prêté cette expérience au personnage de mon roman mais parce que justement je pense que comme le théâtre engage le corps, comme l'a si bien expliqué Chéreau, je pense que chez des gens très jeunes, comme ça, lycéens, c'est aussi une manière de s'engager corps et âme, pour le coup, dans un texte, et d'y mettre une espèce d'engagement absolu, total. Et pour moi, c'est ce qui fait que le théâtre de Chéreau m'a tellement enthousiasmée, tellement touchée, que je peux retrouver aujourd'hui dans certains des comédiens qu'il a formés, je pense à Valeria Bruni-Tedeschi, qui a un jeu tellement engagé, elle aussi, tellement dans cette espèce je me lâche comme ça dans mon chagrin, je me lâche dans la joie. Et alors, bon, c'est pour des jeux qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, mais moi, je les trouve tellement généreux, tellement, absolu, que je trouve ça formidable.
J'ai un rapport, justement, que ce soit au cinéma, à la littérature, au théâtre, qui a un rapport finalement assez sentimental. Et j'assume cette position-là. C'est-à-dire que je sais que quand je suis face à des films ou à des livres ou à des pièces qui me touchent, c'est bien toujours de l'éventualité d'un sentiment amoureux, en fait, qui est le lien. Et cette idée que compte peut-être plus que les liens du sang, compte peut-être plus que l'appartenance à un territoire, cette idée que notre imaginaire à un moment nous constitue, fait notre identité, que ce qu'on apprend, ce qu'on rencontre, en fait, ce qui nous a touchés, nous fasse devenir en fait à chaque fois quelqu'un d'autre. Je suis très attaché à cette idée.
Rové Reto, San Vito, Aimé Delana, je me souvenais de tous ces noms de villages que dépassait le train. Je retrouvais les petits puits de pierre, le grand ciel, j'attendais d'apercevoir le campanile de Dogato. À Kotigoro, j'ai pris un bus sous un ciel soudain voilé qui annonçait peut-être la pluie. J'avançais dans le décor d'Ossessione, de Visconti, de Il Grido, d'Antonioni. Si les paysages ont de la mémoire, celui-ci se souvenait alors des expéditions punitives et des fascistes contre les ouvriers de l'assèchement, de toutes les horreurs commises sur les paysans. Je me suis souvenu de Senso, que Visconti avait tourné en pensant à la Chartreuse et d'après le récit de Camille Boito. Visconti, homme de théâtre et d'opéra, avait ouvert son film à la Fenice de Venise. C'était le premier de sa fresque historique, le premier en couleur. Comme la Chartreuse, Il évoque cette période troublée de l'Italie qui n'en pouvait plus de l'occupation autrichienne. Alida Valli était une sorte de San Severina. C'était l'histoire d'un amour fou et trahi, d'un pays blessé. Stendhal écrivait sans doute son roman avec en tête les bouleversements de 1831 à Modène, même s'il se termine un an avant, et c'était ce que j'aimais, cette façon d'évoquer l'histoire à travers la vie et les sentiments. Peut-être même pensait-il à Ciro Menotti, exécuté la même année pour avoir été un des meneurs des soulèvements de Modène lorsqu'il a imaginé son Fabrice Frondeur. Je suis entrée dans Comacchio, modeste et nue, sans palais, sans la foule, sans le tourbillon des Vaporetti, rien que les canaux qui la traversent, la Tricote, une île un peu flottante. Assise sur un des quais baignés de soleil, je suivais un temps la marche hésitante d'une femme et de son chien, du haut fragile disparaissant au premier tournant dans le silence absolu. Sans eux, le quai ressemblait au plateau vide d'un théâtre qui ne me quittait pas. Tout était théâtre.
Michel Lèbre, on vient d'entendre Luc Vauvillier lire un deuxième extrait de votre roman « Rendez-vous à Parme ». Et juste avant, c'était la voix de Christophe Honoré, le réalisateur, qui parle de tous les auteurs qui l'ont marqué, c'était dans son dernier spectacle au Théâtre de l'Odéon, et du sentiment amoureux qui peut faire le lien et tisser tout ça ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'on
puisse ? Complètement avec ce qu'il dit, oui, bien sûr. Oui, de sentiment amoureux, vraiment, avec... certains livres avec du théâtre, avec oui bien sûr, c'est même pas forcément des choses que j'analyse, c'est une sorte d'élan comme ça, de comme si je trouvais dans le livre ou dans la ou dans le une pièce de théâtre quelque chose qui fasse immédiatement écho à quelque chose en moi de fort, voire d'essentiel. Oui, oui, bien sûr, je suis d'accord.
Et dans l'extrait que lisait Lou à l'instant, on voit justement comment le voyage, donc là dans toutes ces villes en Italie, est tissé de références cinématographiques. On voit un paysage, on voit Visconti, on voit Antonioni, et comment tout ça est vraiment tissé ensemble, comme si les œuvres étaient la matière même du voyage.
Mais complètement, et c'est vrai, ces voyages comme ça, surtout en Italie, hein, où je retourne souvent, ils ont tourné d'ailleurs, Visconti, c'est son premier film qu'il a tourné dans le Delta du Po, au Sessione, et quant à Antonioni, il en a tourné plusieurs, dont Le Cri, qui est une pure merveille, en plus dans ce cinéma en noir et blanc que j'aime particulièrement. Et chaque fois que je retourne à Comacchio, je pense, je traverse une partie de ce delta et je pense à ces films. De la même manière que je pense à Pavese quand je pense, voilà, en Italie du Nord, ou à Turin. Mais c'est ça que j'aime, c'est-à-dire, ce sont des rendez-vous. Ce sont des rendez-vous pour moi. Pavese qui est bouleversant complètement et si je vais à Turin bien sûr je vais au musée du cinéma mais je relis Pavese. En plus j'aime bien emmener la lecture quand je voyage, j'emmène la lecture des auteurs que j'aime et qui viennent de là quoi. Voilà, c'est une façon d'être encore plus dans le lieu où je suis. Voilà, quand je vais à Ferrare, j'ai toujours mon quarto de Bassani, je relis quelques nouvelles, voilà. Oui, c'est ça, c'est ce rapport presque physique, amoureux, voilà. C'est comme ça, moi, c'est pas des réactions intellectuelles, j'analyse pas du tout. Moi, c'est vraiment quelque chose de très spontanément amoureux, ouais.
Laure, la narratrice, dit un moment « Nos vies sont peuplées d'ombres flottantes ». Et c'est les œuvres ou les souvenirs, ce
c'est
seraient
tout.
Ces ombres flottantes là.
C'est tout. Ce sont des images, ce sont des êtres connus, aimés, qui ont disparu évidemment. On chemine. Je pensais à un titre d'un ancien ami qui est mort maintenant, Jean-François Villard, qui avait fait un titre d'un de ses romans noirs avec une phrase de La Femme de Trotsky. Nous cheminons entourés de fantômes au fond troué. Bon, voilà. C'est vrai qu'on chemine entouré de fantômes. Et plus on avance en âge, plus les fantômes sont nombreux, je dois dire. Hein. Et mais moi, je les aime, ces fantômes. Ça me fait pas, j'ai pas un rapport à la disparition et à la mort morbide. J'ai ces gens-là sont tout le temps là. Les disparus n'existent pas vraiment pour moi.
Là, toute la question, c'est aussi qu'est-ce qui fait remonter ces ombres-là à la surface.
Alors ça peut être le voyage, ça peut être une lecture, ça peut être une musique, ça peut être des tas de... une pièce de théâtre, des tas de choses, une couleur, je sais pas, mille choses, un coin de rue, un visage. Parce que les choses que l'on aime et qu'on a en soi continuent de s'écrire comme ça, par hasard. Par rencontre fortuite ou lecture qui ont en rappelle une autre, c'est ça que j'aime, ces espèces de croisements permanents entre les lectures et les rencontres et les images et les c'est être j'adore me perdre dans cette espèce de comme ça d'univers qui est à la fois onirique et complètement réel et présent, les deux à la fois.
Est-ce que Michel Lèbre, vous diriez que dans le voyage, la lecture, l'amour peut-être, toute la question, c'est comme dans la promenade, c'est de faire attention aux signes?
Ah ben bien sûr, je crois que c'est pour ça que moi j'aime voyager seul déjà. Parce que voyager seul, c'est pas du tout voyager à deux ou à trois. Hein. C'est-à-dire que on ne voit pas exactement les mêmes choses. C'est ce que j'ai essayé de dire dans le roman. Quand elle propose à l'amant qui l'a rejoint, tout d'un coup Bologne, qu'elle aime tellement, ne va pas être tout à fait la même ville. Parce que l'autre n'a pas forcément le même regard, les mêmes acquis concernant cette ville, parce qu'il a des envies qu'elle n'a pas forcément, et tout d'un coup, c'est une autre... elle va aimer cette ville parce qu'elle aime cet homme, mais elle l'aime différemment. Elle sait que ce n'est pas sa ville qu'elle est en train d'aimer, c'est celle que qu'elle aime avec lui, c'est différent. C'est pas un constat négatif, triste, hein, c'est juste qu'il faut le savoir. Il faut juste savoir que voyager seul, c'est différent de voyager à deux, c'est différent de voyager à plusieurs. Je parle pas des voyages de groupe, évidemment, où je fuis avec horreur, mais même à deux, et même quand on s'aime beaucoup, j'ai pu remarquer que c'était pas la même chose. Je pense que la solitude dans un voyage, c'est vraiment... C'est être complètement dans ce voyage, seul, y compris voire jusqu'à se perdre dans une ville. Ça, c'est pour moi, c'est ça le vrai voyage.
Ce qu'on entendait dans la lecture de Lou, aussi dans l'extrait de Rendez-vous à Parme, c'était les souvenirs aussi de l'histoire violente de l'Italie. Et même si c'est un roman qui l'évoque... On sent, vous l'évoquiez tout à l'heure, le contexte qui peut être assez préoccupant. On sent que c'est en arrière-plan de ce roman-là.
Le contexte actuel?
Oui, le contexte actuel.
Non, mais bien sûr, c'est...
Mais que votre livre est une certaine manière d'ouvrir une autre porte et dire il y a une autre promenade possible.
Non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, là, quand je vais en Italie, je retournerai à Bologne au mois de juin... pour ce magnifique festival de cinéma de chaque année, alors Cinema Ritrovato, je peux pas oublier qui est au pouvoir en Italie, hein, c'est pas possible. Mais ça fait des années hein, que je ne comprends pas pourquoi les Italiens ont voté pour Berlusconi ou pour Salvini. Enfin, je veux dire, c'est tellement insensé que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ce pays si magnifique, si délicat, cette littérature, ce cinéma des années 80 en tout cas, jusqu'aux années 80, le cinéma réaliste des années 40-50, tout ça. Comment ces gens-là peuvent arriver au pouvoir, c'est absolument pas possible, quoi. Donc c'est une façon de les mettre, de les virer. Hein. Je les vire, moi, ces gens-là. Je fais un autre voyage, il n'existe pas quand je vais en Italie, Salvini n'existe pas. Et je sais que quand je vais retourner à Ferrare, je sais que Ferrare a voté Ligue du Nord, ce qui pour moi est absolument insensé quand on connaît cette ville. C'est hallucinant de penser que cette ville a pu voter Ligue du Nord. J'ai d'abord boudé l'année dernière, je ne suis pas allée par mesure de rétorsion, mais j'y retournerai parce que je vais oublier, je les vire ces gens-là. Ils ne sont pas dans mon voyage, je ne veux pas qu'ils m'encombrent.
Est-ce que dans cette succession aussi de livres, de souvenirs, de films, ça apparaît dans votre tête comme des chaînes un peu sensibles, qui sont assez claires, que telle chose mène à telle autre?
Mais beaucoup, hein. Oui, je pense que quand on... Même quand je marche dans les rues dans Paris, tout d'un coup... Une rue va me rappeler un roman de Modiano, un autre endroit va me... Je veux dire, on voyage... Le voyage, il est à l'extérieur et à l'intérieur en permanence. La machine marche, continue à marcher dans la tête et dans la mémoire, en même temps que l'on se déplace dans l'espace. Oui, moi, je fonctionne comme ça. Et puis, j'aime ce fonctionnement-là parce que c'est en sans cesse brasser comme ça tout ce qui constitue mes valises, qui évidemment sont de plus en plus lourdes mais dont j'ai besoin tout le temps et que je trimballe partout. Quand je pense de mes valises, je me dis tout ce que j'ai en mémoire, en tête, et les lieux font toujours écho à soit à l'histoire, soit à des lectures, soit à des films, soit à des... Et pour moi, c'est un... J'adore ça, cette espèce de tourbillon permanent dans lequel je picore un peu.
Est-ce que ce système d'écho, ce serait une des formes, sans citer la toute fin du roman, de la beauté?
De la beauté? Ah oui, sûrement. Mais de la beauté en train de se faire, quoi. Quelque chose d'un mouvement. Moi, j'aime bien l'idée du mouvement permanent, pas quelque chose qui est fixé une fois pour toutes. De la beauté d'un paysage, oui, avec une lecture qui arrive, mais une autre fois, ça sera peut-être une autre lecture ou une autre réminiscence. Et tout ça, c'est le même paysage. Et c'est, voilà, c'est ça, c'est cette espèce de mouvement en permanence. Le mouvement en permanence.
Merci, Michel Lèbre.
Merci à vous.
Rendez-vous à Parme, c'est le titre de votre dernier roman et il est publié aux éditions Sabine Vespizer. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Ce soir au son, c'était Bernard Laniel, Lise-Marie Barré à la réalisation. Merci à Luc Vauvillier, Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Anna Baron qui pensent et préparent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Dis-nous si ça va.
sais rien. Dis-nous si ça va.